Radio Foot International.
Christophe Jousset.
Bonjour et bienvenue dans Radio Foot entièrement consacré aujourd'hui à la victoire du FC Barcelone sur le Bayern Munich, un match exceptionnel, donc émission exceptionnelle. Le Barça a presque déjà gagné sa place en finale de la Ligue des Champions en dominant le Bayern 3-0, un match d'une intensité, d'une qualité technique absolument fascinante, tout était beau, la bataille tactique aussi et surtout le scénario. Nous allons analyser dans le détail cette rencontre avec des témoins directs, François David, notre correspondant à Barcelone. Bonjour François.
Bonjour messieurs, bonjour à tous.
Hervé Penaud qui était hier soir à Barcelone. Bonjour Hervé.
Bonjour à tout le monde.
Vous êtes tous les deux de retour d'un autre monde, une terre baptisée Camp Nou, où évolue une créature baptisée Lionel Messi. Il n'est pas comme nous, il n'est pas non plus comme ses semblables, les autres joueurs de haut niveau. C'est lui qui, en 18 minutes, a dynamité le Bayern. Un but du pied gauche, un autre du pied droit, une passe décisive pour terminer 3-0. Un score qui ne reflète pas vraiment tout le match, surtout la fin. Car jusqu'à la 77e minute, le Bayern a réalisé un match presque parfait, en tout cas défensivement. Ce 0-0 était un bon résultat, avec le concours notamment du gardien Manuel Neuer, décisif à plusieurs reprises. Match exceptionnel aussi parce que le Barça n'a pas eu la possession du ballon, ce qui est très rare. Contre son ancien club, Pep Guardiola a pris des risques, il a été audacieux et il a eu raison presque jusqu'au bout. Alors, le Barça est-il le futur champion d'Europe? C'est l'une des questions que nous allons aborder en compagnie également de Jean-Philippe Bouchard du quotidien L'Équipe. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
En compagnie de Salim Bongali de Canal+. Bonjour Salim.
Bonjour à toutes et à tous.
Et d'Éric Chorin qui a vécu avec nous cette belle soirée hier au service des sports de RFI. Bonjour Eric.
On a fait bouger Jean-Philippe Bouchard.
Oui. Voilà. Oui. Radio Foot préparé avec
sur
David Finzel.
On va avoir des superlatifs.
Ah bah il faut là, c'est si on les sort pas aujourd'hui. Réaliser cette émission avec David Finzel et Abdel Marzouk. Nous sommes ensemble pour 45 minutes plus le temps additionnel. Et on va commencer tout de suite par un petit tour de table pour voir où chacun situe ce match dans sa hiérarchie personnelle. Salim, je me tourne vers vous d'abord. Dans votre panthéon, il est où ce match?
Oh, je dirais dans le top 5 de la Ligue des Champions, parce que mon premier reste un Liverpool-Milan-AC il y a quelques années quand même. Mais celui-ci, allez, 4 ou 5.
Jean-Philippe?
Ouais, je suis assez d'accord. Moi, immédiatement, moi, j'ai pensé effectivement à Liverpool et à ce retournement de situation incroyable, à 3-0-3-3. Mais là, on est aussi en plus la densité des buts, c'est-à-dire les 3 buts en 10 minutes à peine. Fait qu'il y a un retournement, enfin pas un retournement de situation, mais un scénario comme ça totalement incroyable. Plus un joueur, je pense que tous les gens qui voient jouer Messi en ce moment doivent s'en souvenir parce que ça n'arrivera pas
à chaque génération.
À chaque génération.
On va en reparler longuement. Hervé Penaud, vous avez l'air encore sous le choc.
Ah oui, pour moi, c'est l'un des plus beaux matchs que j'ai vu. J'étais à Milan AC, le fameux match de Liverpool-Milan AC, mais moi, j'ai trouvé ce match encore plus impressionnant. Franchement, alors l'autre, il y a eu ce retournement de situation qui était incroyable. Il y a eu aussi des changements tactiques. Mais là, il y avait tout. Il y a parmi les deux plus belles équipes du monde, ce qui n'était peut-être pas complètement le cas à l'époque. Là, on avait deux monstres l'un en face de l'autre. C'était un combat de boxe. C'était d'une violence incroyable, inouïe. Manque de chance à Bayern Munich, il manquait quand même quelques éléments clés dans cette équipe. Et ça, on aurait aimé voir ce match-là avec les Robben, oui, avec les Batshuayi, avec les Alaba, avec les Ribéry, évidemment.
Mais vous n'étiez pas là. Vous avez eu la chance en plus d'y être, d'ambiance exceptionnelle.
Alors exceptionnel, très bonne ambiance, notamment pour Messi, parce qu'à la fin tout le monde a scandé son nom. Mais des ambiances, j'en ai connu des largement meilleures, oui, que ça. Oui. C'est plus que l'ambiance, parce que c'est le match lui-même. On avait vraiment l'impression d'un combat de boxe. C'était beaucoup plus violent que Mayweather, par exemple, contre Pacquiao.
C'est pas ça, dur. Hein.
Au moins celui-là, il a tenu ses promesses. François, oui. François David, vous êtes en direct de Barcelone. Vous en avez vu des matchs du Barça?
Ah, j'en ai vu un paquet. Alors, celui-là, top 3, parce que il y avait tout, il y avait surtout aucune animosité avant le match. C'était vraiment une ambiance super festive. Tout le monde voulait voir ce match-là. C'était un petit peu une finale avant l'heure. Et il y avait le retour de Guardiola en plus, qui a rajouté un petit peu dans l'émotion. Mais sur la qualité du match, sur l'intensité, sur le combat tactique et l'expression d'un génie comme Messi, je suis entièrement d'accord avec Hervé. Et je suis souvent d'accord avec Hervé.
Mm-hmm. Ah, là, vous avez bon goût.
Bah ça oui, et effectivement c'était top 3, sinon allez dans les deux premiers, oui.
Alors, qu'est-ce qu'on en dit aujourd'hui, au lendemain de cette demi-finale aller en Espagne, en Catalogne notamment?
Alors, plein de superlatifs. Hein,
dans les journaux.
Ouais. Illumination pour Sport, extase pour la Vanguardia, Messi, le crack impara pour le Mundo Deportivo. Il y en a que pour Messi. La une, d'ailleurs, du Mundo Deportivo est pas mal, parce que ils ont cité R Messi, R-H-E-R-R.
On l'a sous les yeux ici, ouais.
Monsieur Messi, et moi j'ai vu ça aussi comme un clin d'œil à R Jordan. Le seul pour moi qui incarne actuellement le ce que a pu être Jordan dans l'expression, dans la domination de son sport collectif, c'est Messi avec le football. Voilà, donc il y a eu un petit clin d'œil, mais Messi a 10 évidemment partout, il a 5 étoiles pour le Mundo Deportivo, et bah aujourd'hui en Catalogne, tout le monde ne parle évidemment que de Messi.
Alors il y a quand même As, j'ai la une de As. Bon, sous les yeux, qui fait sa une sur un éventuel retour de Morata au Real.
Oui, bon, il faut comprendre, hein, c'est le journal madrilène. Donc, forcément, voilà. Ils sont pas super contents, sachant plus que le Real avait perdu. Mais même, je crois, en haut, ils parlent quand même un petit peu de Messi en disant que
dans le bandeau,
il a ouvert les portes de la finale.
Hein. Ouais, la finale rêvée. Après le tirage, on se disait que c'est vrai que, comme le dit As, justement, on aurait voulu cette demi-finale aurait dû être une finale. Les regrets sont encore à vivre là, non?
Les regrets sont présents, oui et non. Alors, je dis oui parce que sur le papier, oui, ce sont les deux meilleurs effectifs. Après, Hervé l'a très bien dit, il y a aussi de très nombreux absents quand même dans cette équipe du Bayern. Même si le Bayern a été très intéressant, notamment défensivement sur la première heure, cette équipe du Bayern, le bloc défensif, tactiquement, ça a été remarquable. Après, avec Robben, avec Ribéry, avec Alaba, ce Bayern n'est peut-être pas tout à fait le même.
Alors moi c'est tout le contraire, moi je voulais les voir en demi-finale parce que c'était l'idée d'avoir un aller-retour qui m'intéressait beaucoup. Ouais. Alors parce que savoir que ça va être une finale, tant mieux, même si ce sont les deux meilleures équipes, ça m'intéresse moins.
Mais en maintenant revanche, le retour vous intéresse moins du coup.
Absolument, mais ce qu'on a vu là, il m'intéresse moins. Non, sur le plan du jeu, ça risque d'être encore un spectacle phénoménal. Ouais, parce que ça va être encore quelque chose, parce que les Allemands vont pas se laisser avoir comme ça. Et là ils vont tout donner, et puis de l'autre côté, ça va rendre coup pour coup. N'oublions pas la demi-finale il y a 2 ans, il y a un petit peu de mémoire.
Non, ils ont pas du tout envie de revivre ce qui s'est passé l'année dernière avec le Real, donc
on va y revenir sur la perspective du match retour.
Je trouve qu'en aller-retour, je trouve ça très intéressant parce que là, vous avez la capacité pour chaque équipe de montrer ce qu'elle est capable de donner. Vous savez, sur une finale, parfois c'est un peu tendu. Vous mettez pas complètement votre jeu en place, c'est un peu plus difficile. Puis ça peut se jouer sur un coup de dé. Là, vous avez deux matchs, un à la maison, un à l'extérieur. Vous pouvez tout donner. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de les voir l'un face à l'autre.
Alors, avant de détailler, d'analyser en détail donc ce match avec vous, Eric Chorin, un coup d'œil sur ce qui s'est écrit sur Twitter, notamment sur les réseaux sociaux, parce que au cours de cette soirée, bon, évidemment, ça a dû inspirer pas mal de monde.
Oui, il y a eu beaucoup de choses de dites, mais enfin, évidemment, la star, hein, c'est Jérôme Boateng et Lionel Messi, ce sont les deux qui ont agité la twittosphère. Il y a Vicente Lizarazu, lui, qui dit quand même que pendant 75 minutes, le Bayern et Barcelone ont fait jeu égal, ça peut se discuter. Puis, la tornade de Messi, bon, c'est un peu peut-être ce qu'on a vu, hein, de côté du match. Il y a Sidney Govou, enfin, il y a marqué Govou Sidney, j'imagine que c'est le même. Messi, là, c'est trop, il faut t'excuser après le match. Donc, c'est lui qui focalise un petit peu l'attention. Puis, il y a ceux qui, en revanche, nous expliquent que, notamment, on ne pouvait pas assister à une victoire du Bayern Munich. Il y a Sidney Bloggywood qui a entendu au bureau aujourd'hui, de toute façon, on ne peut pas supporter une équipe allemande la veille du 8 mai. Oui, bon, ça se discute aussi. Et puis après, évidemment, il y a les innombrables mails sur Jérôme Boateng. On va peut-être attendre un petit peu pour en parler, si on se concentre sur ce cas-là.
On va être obligé de lui faire un sort particulier entre guillemets à Jérôme Boateng, mais avant on va s'intéresser à son torsionnaire Messi, qui a été colossal évidemment avec un grand K hier, qui a inscrit ses 52e et 53e but cette saison. Avant d'en parler ici autour de la table, on écoute ce qu'en dit un de ses coéquipiers qui est bien placé pour le voir jouer puisqu'il joue juste derrière, Andrés Iniesta.
Une fois de plus, il faut tirer notre chapeau à Léo. Ces deux magnifiques buts, ces instants de magie, il fait des choses qui paraissent faciles mais que personne ne peut faire. Nous sommes heureux pour tout ça, pour le résultat et pour la première partie de cette demi-finale que nous avons bien menée.
Oui, c'est vrai que la première demi-finale aussi a compté, la première partie de cette demi-finale. En fait, ce match est coupé en deux, hein, jusqu'à la 77e et après. Je vous propose de commencer par la fin. Avec
on pourrait dire qu'il a été coupé en trois, parce qu'il y a eu les 10 premières minutes avant le changement de tactique en défense de Bayern, où là, il y a eu un rééquilibrage remarquable après un début de match compliqué pour le Bayern. Donc ça, on peut effectivement dire qu'il y a eu trois parties.
Alors sur Messi, 77e, c'est son premier but. Est-ce que 80e, le deuxième but, deux buts en 4 minutes qui font basculer tout.
Tout est extraordinaire dans ce match. C'est-à-dire que c'est son 77e, même les stats, c'est-à-dire que c'est son 77e
oui, c'est
but
bien organisé.
En Ligue des Champions à la 77e minute. Enfin, l'impression que c'est astral, quoi. Il faut qu'il reste dans l'histoire, ce match. Il en profite, il marque deux buts, il en profite pour doubler Ronaldo dans la course au meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Enfin, tous les records sont battus. Enfin, il y a quelque chose de phénoménal dans ce match.
Je trouve que Iniesta dit assez, vous l'avez écouté, simplement l'évidence. Il dit Messi fait des choses qui paraissent faciles, mais que personne ne peut faire.
Et voilà la grande différence pour moi entre Messi et Ronaldo. Ronaldo, vous sentez le travail. C'est un joueur phénoménal, exceptionnel. On va encore retrouver d'autres superlatifs. Il n'y a pas de doute. En revanche, vous sentez que c'est quelqu'un qui travaille. C'est quelqu'un de costaud, physiquement puissant, tout ce que vous voulez. Messi, c'est le génie. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de travail derrière. C'est simple, c'est naturel. Ça paraît aussi naturel que ça, mais en revanche, il y a bien sûr du travail derrière. Donc ça veut dire que pour moi, il incarne vraiment la perfection actuelle du footballeur grâce à ça, grâce à cette notion de non-travail, j'allais dire. On a l'impression que tout ça, c'est naturel. Vous respirez, vous marchez, ouais. Vous jouez au football.
Et les gestes qui réussissent sont simples, en fait, finalement. C'est souvent, c'est un crochet. Enfin bon, tous les footballeurs savent le faire, sauf que lui, il les fait dans le timing parfait et à une vitesse folle aussi.
Voilà, c'est la vitesse.
C'est ça la différence.
Salim. Le terme utilisé par Hervé, le côté normal de Lionel Messi. Sur le deuxième but, on le visualise très bien. Il y a une balle qui repart plus ou moins vers la défense du FC Barcelone, jusqu'au milieu de terrain à peu près. Et on voit Lionel Messi qui repart en retrait, en marchant. Tranquillement, le Barça récupère le ballon et là il commence à courir. On lui donne la balle et on sait ce qui se passe après. Il se replace tranquillement. D'ailleurs, on le sait en stats, c'est pas celui qui court le plus, hein, loin de là au FC Barcelone. Mais effectivement, il est normal presque pendant 75 minutes. On aura l'occasion de réévoquer cela. Et après, pendant le quart d'heure suivant, c'est un dieu.
Mais grande intelligence de placement. Je le regardais par moment pendant le match pour voir ce qu'il faisait. Parce qu'effectivement, je me souviens très bien de cette action-là parce que je l'ai regardé un peu se déplacer à ce moment-là. Il sait exactement où se mettre. Parce que ce qui est incroyable, c'est qu'il est Messi, tout le monde l'a à l'œil, mais il arrive à se démarquer quasiment tout le temps. C'est-à-dire qu'il prend pas toujours la balle avec un adversaire sur lui, collé à lui, pas du tout. Alors pourtant, les Allemands faisaient le pressing sur lui, hein. Pas du tout, parce qu'il sait faire les 2-3 mètres qu'il faut, légèrement, nonchalamment, un petit peu comme s'il allait se balader d'un autre côté du terrain, et c'est à ce moment-là qu'on le voit, qu'on lui donne la balle, et lui, il peut faire la différence.
François, vous dites, oui, qu'il a pas eu tellement de travail chez Messi. Regardez quand même l'évolution de son corps depuis le début de sa carrière. Au début de, quand il avait 20 ans, il était vraiment tout fin, il a des toutes petites jambes. Regardez maintenant le taureau que c'est. Il a pris quand même vachement de muscles et c'est obligé parce qu'il se prend quand même beaucoup de coups par an. Et pour tenir, je sais pas combien de matchs doit faire le Barça par an, mais ça doit être quelque chose 40-45 matchs par saison. Et pour tenir ça, Messi était obligé de se muscler et de prendre sur lui. Et techniquement, je pense que nous on voit. Allez, 30% de ce qu'il est capable de faire et qu'aux entraînements, c'est absolument fantastique, je pense.
Quand je disais, on a l'impression qu'il ne travaille pas. C'est pas qu'il ne travaille pas, au contraire, c'est un énorme, j'imagine, un énorme travailleur. En plus, pour avoir effectivement changé son corps de cette manière-là, c'est que derrière, il y a au moins du travail de musculation et puis du travail technique, parce qu'on n'atteint pas ce niveau sans rien faire. En revanche, c'est que tout paraît si simple. Vous savez, vous marchez dans la rue, ça paraît naturel. Bah, lui, il joue au football, ça paraît très naturel. Et il n'y a pas derrière ses actions la notion de travail qu'on peut voir chez d'autres grands footballeurs.
Alors, il y a eu ce but à la 77e avec une frappe soudaine, c'est vrai, du pied gauche au ras du poteau face à un Neuer, on y reviendra, qui était jusque-là imbattable, mais là c'est parti tellement vite et c'était tellement précis qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, même pour le gardien des champions du monde. Et puis à la 80e minute, ce but encore plus beau, j'ai envie de dire, parce que c'est un véritable numéro avec Jérôme Boateng dans le rôle de la victime qui termine sur les fesses suite à ce dribble, à ce crochet du quadruple ballon d'or, une petite balle piquée de l'autre pied du pied droit pour terminer. Tout ça commenté à travers le monde entier, hein, et dans toutes les langues. On va l'écouter.
Sergio Busquets tocando para Rakitic, el desmarque de Leo Messi, no hay fuera de juego, aparece Neymar en el otro lado, que desborde, ahí va la valer, ¡qué golazo! ¡Quítense el
contre.
Minutes, voilà le génie qui déclenche la foudre à deux reprises sur le Camp Nou et qui donne un avantage très important au Barça.
Voilà qu'à la sbakaya bihadaf, voilà qu'à l'murtadet fait fane, l'amche Messi, ya baba, l'Argentini, oua baba, tiki taka dell'Argentino, l'enna jalabat Maradona ou Lionel, Messi, ya mhabbelhom ou mhabbelni, ya mdawakhom ou mdawakhni, ya mhazibhom, ya mhazibni, papa Boateng, s'nachouel zahrek, s'nachouel zahrek, ya Boateng.
Papa Boateng, bon, on a compris. C'est commentateur d'Al Jazeera, hein, pas mal. Il y avait tout le monde, il y avait Messi, il y avait Maradona, il y avait Boateng. Bon, voilà, c'est spectaculaire. Est-ce que sur ce dribble, comment vous avez vu cette action, le comportement de Boateng, la chute de Boateng est complètement atypique. Il tombe comme un échalas. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Comment vous l'avez vu?
C'est assez affolant. Juste un moment très personnel. Hier, j'ai la chance de regarder ce match avec mon père, et c'est la première fois de ma vie que j'entends mon père crier à côté de moi sur un but. Ah. Il a crié, il était tellement affolé.
Mais il est tombé du canapé. Il a pas pu éviter Messi. Il a marché dans la fin.
Sur le but, effectivement, sur le fait que Boateng tombe ainsi et que Messi réalise ce geste. C'est vrai que tout à l'heure, c'était évoqué, un crochet, une petite pichenette, ça paraît tellement simple. Mais de le faire aussi vite, c'est la vitesse qui est affolante. On a l'impression que Messi a eu cette seconde d'avance. Il savait déjà, après avoir passé Boateng, comment il pourrait ainsi gêner et battre Neuer. C'est ça qui est assez affolant.
Et sur le dribble sur Boateng, Boateng, il anticipe légèrement son crochet extérieur parce qu'il le connaît par cœur. Tout le monde connaît Messi. On sait que quand il rentre intérieur, il a tendance à repasser encore intérieur et à frapper. Mm. Qu'est-ce qu'il fait? Il tente légèrement d'intercepter sur le côté droit et l'autre a tout de suite vu. Il l'a vu avant même qu'il bouge. Il savait déjà qu'il allait faire ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il reprend intérieur. Et au moment où vous reprenez intérieur, il est grand, Boateng, il est costaud. Et ben, il a du mal sans son appui et il tombe. Mais ce sera arrivé avec 99,9% des joueurs, voire 100% peut-être sur ce type d'action.
C'est-à-dire que Boateng a fait un pari, il a choisi un côté en se disant, bon, quitte à être
éliminé
autant.
Et quitte à permettre à Messi d'aller sur son mauvais pied, entre guillemets, le pied droit. On préfère le laisser aller sur le pied droit que le laisser repiquer dans l'axe et marquer comme il le fait 99 fois sur 100.
François, il vous a encore étonné, Lionel Messi, ou?
Oui. Bah, ce qui paraît fou, en fait, c'est que c'était pour moi des tribunes. Enfin, on sentait que c'était le seul vraiment à pouvoir battre Neuer hier. Suarez s'y est essayé, il avait échoué. Neymar, il était empêtré dans des dribbles. Je crois que le système défensif du Barça était du Bayern était vraiment excellent sur lui, et on voyait qu'un seul qui pouvait déclencher cette petite étincelle, et c'était Messi. Et là, sur le dribble, on pense évidemment qu'il va frapper du gauche, peut-être qu'il va poursuivre un petit peu comme il le fait pour plus se recentrer et frapper. Et là, il fait ce nouveau crochet. Le fait, voilà, qu'il le fasse ce petit piqué du pied droit, qui est pas son meilleur pied, qu'il l'utilise pratiquement pas, et ben ça prouve que c'est le joueur vraiment qui pouvait faire la différence hier.
Alors, Eric Chorin, les twittos se sont pas gênés pour se moquer de Jérôme Boateng.
Pour évoquer le cas Boateng, y a pas mal d'allusions, bien sûr, à ses reins, ses dos, ses fesses, parmi lesquelles celles-ci, dont plusieurs internautes revendiquent la paternité. C'est foutu, conclut le chirurgien devant la radio des reins de Boateng. On voit bien la radio. Bon, il y en a d'autres qui sont exprimés. Il y a Renaud Dely, le rédacteur en chef de l'Obs, qui nous dit Boateng songerait à se reconvertir en piquet de slalom pour les prochains jeudis. JO d'hiver. Patrick Juillard, chroniqueur de Radio Foot, lui nous parle à propos du goût prononcé de Boateng pour la danse. Il a pas peur de se fâcher du coup avec la Côte d'Ivoire. En même temps, un mec qui danse sur Magic System en 2015, pas étonnant qu'il soit en retard. C'est pas très sympa. C'est très drôle.
Voilà. C'est très drôle.
Et puis il y a eu cette page Wikipédia qui nous annonce tout simplement la vie de décès en anglais de Jérôme Boateng au Camp Nou hier. Voilà.
C'est dur. C'est cruel en plus pour Boateng. Bon, est-ce qu'il a pas fait un si mauvais match que ça? On va en reparler tout à l'heure dans la deuxième partie de Radio Foot. À tout de suite.
Radio Foot International.
Christophe Jousset.
Radio Foot, la deuxième partie, toujours en compagnie de François David, en direct de Barcelone. Et ici à Paris, Hervé Penaud, Jean-Philippe Bouchard, Salim Bongali, Eric Chorin. Nous parlons, nous décryptons cette demi-finale aller remportée haut la main par le Barça hier face au Bayern Munich. En tout cas, si l'on se fie au tableau d'affichage, 3-0. Nous en étions au cas de Jérôme Boateng qui s'est fait mystifier par le dribble de Messi sur le deuxième des 3 buts catalans hier soir, Eric Chorin, et il a eu le cran quand même de se présenter devant les journalistes pour s'expliquer.
Oui, parce qu'on n'arrête pas de nous dire que Lionel Messi était en conférence de presse avant, après, que c'était pas arrivé depuis près de 2 ans, mais Jérôme Boateng, lui, il est venu courageusement après le match, et je trouve que son analyse est à la fois courageuse et plutôt lucide, hein. Tout le monde, sur le but, hein, tout le monde est parti à l'abordage, et face à un joueur comme Messi, qui est le meilleur joueur au monde, vous ne pouvez pas vous le permettre et laisser un défenseur tout seul en 1-1. C'est pas faux, quand même, sur ce qui s'est passé.
Il a tout à fait raison. D'ailleurs, rappelez-vous, au début du match, le système de Guardiola était de jouer avec 3 défenseurs. Et il se retrouvait facilement en 1-1. Et au bout d'un moment, il a dû régler la mire, parce que c'est pas possible de jouer 1-1 contre Messi.
Salim.
C'est pas faux. Et indirectement, il tacle un tout petit peu ses coéquipiers quand même, hein. Vous m'avez pas suffisamment aidé, les gars. Sur ce Lionel Messi, à un moment donné, je peux pas tout faire tout seul. Mmh.
C'est ça aussi. C'est là aussi où le pressing, et l'impact physique que les joueurs du Bayern ont mis sur le match a pesé à un moment. C'est-à-dire que à la 80e minute ou la 77e, refaire une course pour revenir encore une fois et être à 2 ou 3 autour de Messi pour protéger, ça devient plus possible. Voilà, c'est ça aussi que le Bayern a payé.
Alors Messi a marqué 2 fois hier contre Manuel Neuer et l'équipe rappelle qu'en 3 confrontations précédemment, il n'avait jamais réussi à marquer. Parmi ces 3 confrontations, il y avait 2 matchs contre l'équipe nationale d'Allemagne lors des 2 dernières Coupes du Monde. Donc ça s'est fait et l'on repense inévitablement aux déclarations d'avant-match de Manuel Neuer qui disait l'important c'est de montrer face à Messi, c'est de lui montrer qui est le patron. François David, vous pensez qu'il regrette aujourd'hui Manuel Neuer?
Oh non, absolument. C'est pas du tout dans sa mentalité, hein, dans les...
Est-ce que vous pensez que ça a piqué un petit peu Messi?
Est-ce qu'il avait besoin de ça? Franchement, je pense pas. C'était un match important pour lui, parce que c'était avant tout une demi-finale et que lui, il va encore regagner une Champions League. Et il y avait, oui, je pense, par rapport à la finale de la Coupe du Monde, c'est vrai que Neuer et l'équipe d'Allemagne en général, ça l'a privé d'un titre mondial qui l'aurait fait, je pense, m'ont installé définitivement comme le plus grand joueur de tous les temps. Je pense que ça l'a motivé. Maintenant, le fait que Neuer dit non, moi je vais lui prouver que c'est le patron. On connaît très bien les gardiens allemands, les Oliver Kahn, Leno, et même André Ter Stegen, qui est le gardien du Barça, qui est la réplique miniature de Manuel Neuer au niveau de la confiance en soi, des déclarations et de... Mm-hmm. Donc non, je pense pas que ce soit que c'eût été un élément déclencheur pour Messi.
Parce que quand même, on a eu l'impression, mais vous le voyez plus souvent que nous, et en vrai, que Messi était particulièrement heureux hier soir.
Non, mais il est fort.
Dans sa manière de célébrer ses buts.
Ouais, mais Messi est bon à tous les matchs pratiquement. Il fête ses buts assez rarement. Là, oui, effectivement, parce qu'il y avait toute la tension. C'était un match spécial, Guardiola, la demi-finale. Mais Messi joue également contre Almeria, que contre le Bayern de Munich. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai, c'est qu'il s'économise jamais. D'ailleurs, il ne sort jamais. Il joue tous les matchs. Il veut jouer tous les matchs. Et c'est sa nature. Je vous ai retrouvé un petit truc là aujourd'hui dans Mundo Deportivo, il l'appelle carrément le roi Midas, Messi. Donc voilà, c'est un autre superlatif qu'on avait oublié.
Celui qui transformait en or tout ce qu'il touchait. Salim.
Mais pourquoi aussi autant de joie? Parce que jusqu'à la 77e minute, le Barça se casse les dents sur cette équipe du Bayern. Au final, peu d'opportunités. Manuel Neuer, on le voit 2 fois sur 2 énormes occasions en première période. Et en seconde période, on ne le voit pas tant que ça. Le Barça n'a pas beaucoup d'opportunités. Messi, peu d'espace. Neymar et Suarez également. C'est pour ça aussi qu'il y a autant de joie, une libération pour cette équipe du FC Barcelone.
C'est pas le Barça qui a battu le Bayern, c'est vraiment Messi là. Hein. C'est vraiment lui la plus-value, c'est lui qui fait la différence. Alors effectivement sur les actions, mais c'est vraiment lui qui gagne ce match par ses coups de génie et par sa présence. C'est un sport collectif, c'est toujours difficile de sortir des individualités, c'est pas très juste. Mais là en l'occurrence, on peut pas y couper.
Messi. Oui, Hervé. Mais si, pas marqué ces buts-là, on aurait dit c'est Neuer qui a gagné le match. En train de gagner, s'il y a eu match.
Exactement.
Parce que Neuer, de son côté, a fait un match phénoménal au début. Les deux face-à-face qu'il remporte, plus la sortie avec à 35 mètres de ses buts sur Neymar, c'est absolument incroyable. Donc lui aussi est au rendez-vous.
Ouais, et en général, quand un gardien prend le dessus comme ça dans un match, pendant l'essentiel de la rencontre, ça devient de plus en plus compliqué pour les attaquants qui essayent de trouver des angles de plus en plus compliqués, de tirer de plus en plus près des montants. Enfin, bon, il commence à avoir, il met la pression tout de suite sur les attaquants. Et en général, ça tourne en faveur du gardien. C'est ce genre d'affrontement. Là, c'est encore la force, une nouvelle fois, de Messi d'avoir su dépasser ça. Tu fais la différence sur son pied droit, c'est quand même extraordinaire. Avec une balle piquée face à Neuer, c'est quand même quelque chose.
Et quand on est sorti de ce match-là, quand on est sorti à François, c'était quand même, il y avait une sensation, franchement, d'avoir vécu un truc exceptionnel. Tout le monde en parlait tous entre nous après le match. Je disais, mais on a vu quelque chose d'énorme. Moi, je parlais avec un Anglais, journaliste anglais connu là-bas, et qui m'a dit, mais après, alors je ne sais plus quel match, il m'a dit, c'est je pense qu'en termes d'intensité, c'est le deuxième match le plus impressionnant que j'ai vu de ma vie. Et la performance de Messi était juste phénoménale.
Alors, vous allez me dire que c'est tôt. Mais tant pis, je lance la question là au milieu de la table. Est-ce que Messi a déjà gagné le Ballon d'Or ?
Le problème, c'est qu'on est au mois de mai et j'ai envie de dire de janvier à mai. Déjà en stats, puisqu'on va parler en stats, apparemment les stats ça compte aussi désormais pour le Ballon d'Or. Il a marqué, c'est le joueur qui a marqué le plus de buts sur cette année civile jusqu'ici. Bon, cette année, quelle est la seule compétition, grande compétition qui existe à part la Ligue des Champions, la Copa América. Donc si l'Argentine vient à gagner cette compétition, pourquoi pas voir effectivement Lionel Messi remporter le Ballon d'Or au final.
Mais moi, je pense que ce n'est pas gagné aujourd'hui. Ça dépendra beaucoup de la finale de la Ligue des Champions. Et imaginez un Real Barça avec un doublé de Cristiano Ronaldo, parce que ça va être joué entre les deux, faut pas chercher midi à 14h. Imaginez un doublé ou un triplé de Cristiano Ronaldo en finale de Ligue Europa. Là, je mettrais bien une pièce sur Cristiano Ronaldo. Et d'ailleurs, il le sait, Messi. Il va toujours plus loin, parce qu'à un moment, c'est un combat permanent entre l'un et l'autre. L'autre et l'un et l'autre.
C'est chassé-croisé. C'est-à-dire que Cristiano Ronaldo a marqué contre la Juve l'autre soir.
Exactement.
Et le lendemain, Messi repasse devant dans ce classement historique.
Et je me demande même si le fait d'avoir laissé le penalty à Neymar la dernière fois au championnat, il y a pas un arrière-goût en se disant, mais finalement, à la fin de la saison, s'il me manque un but.
Non. Imaginez, messieurs, que Neymar gagne la Copa América avec le Brésil, qui survole la compétition. Neymar, on est déjà à 35 buts depuis le début de saison. Là, c'est le lieutenant de Messi. Allez, je parlais de Jordan, c'est le Scottie Pippen pour ceux qui s'en souviennent pour moi actuellement. Mais Neymar n'a que 23 ans. Il est en train de prendre une dimension phénoménale. Il marque pratiquement tous les matchs. Imaginez, il y a une finale Barça-Real. Messi un petit peu en dents, Ronaldo en dents et Neymar qui met un doublé.
Ouais, là, je pense qu'on peut imaginer beaucoup de choses, mais il y a quand même un phénomène qui est maintenant très très vrai dans la façon dont est élu le Ballon d'Or, c'est qu'il y a le statut qui compte maintenant, l'histoire, même si on est censé, enfin les jurés sont censés juger sur l'année civile, mais il y a la valeur maintenant intrinsèque du joueur et tout son passé qui vient avec. Et là-dessus, Messi a un avantage considérable sur Neymar.
Ouais, moi je vois pas que Neymar aujourd'hui dans cette bagarre-là, il en est très loin. Il serait même le héros de la finale de la Ligue des Champions. Je pense qu'on parlerait encore de la demi-finale de Messi, parce que malheureusement il est un petit peu plus loin. Et je suis d'accord avec Philippe, il y a une histoire de crédit. Et le crédit, ça vous l'obtenez au bout d'années et d'années de travail. Et malheureusement pour lui, la Copa América, même si c'est une grande compétition, c'est vrai que sur les Sud-Américains, il pourra avoir des votes, mais c'est pas du tout évident qu'en Asie, par exemple, les gens votent parce que vous avez gagné la Copa América.
Il ferait peut-être un bon troisième Neymar. Salim.
En revanche, ce Ballon d'Or, donc ça sera dans quelques mois évidemment, je suis convaincu que ce deuxième but marqué par Messi, il comptera. Il a tellement marqué les esprits et il va encore marquer les esprits que ça pourra compter dans les votes finaux.
Alors, il y a Messi, mais il n'y a pas que Messi, François, dans cette équipe. C'est quand même, il y a quand même des Rakitic pour lui donner des ballons de but. Iniesta, éventuellement. Et puis vous, on en discutait en préparant cette émission. François, ce qui vous a beaucoup plu aussi, c'est la défense de ce FC Barcelone.
Bah ouais, est-ce qu'on a vu un tir cadré du Bayern hier? Non, aucun. Est-ce qu'on a vu le Bayern s'approcher des buts vraiment dangereusement du Barça? Pas tellement. C'est le système défensif qui a vraiment été excellent, de Rakitic qui harcèle, qui est un joueur super complet et qui fait tout le boulot défensif, de Busquets évidemment que l'on connaît, Gérard Piqué qui est revenu à son meilleur niveau, Javier Mascherano, même Daniel Alves que je porte pas pourtant dans mon cœur. Et ben là, il est en train de revenir au niveau où il était il y a 3 ans. Ter Stegen hier, il a pas eu un arrêt à faire. Donc on parle quand même de la meilleure défense de la Liga avec seulement 19 buts encaissés depuis le début de saison. C'est pas que Messi, hein, le Barça, et c'est la grande force aussi de Luis Enrique, qui a pu concocter vraiment un système défensif adapté pour ce Barça-là, en laissant vraiment tout le protagonisme offensif à son trio magique, et notamment, je pense aussi sur les coups de pied arrêtés, parce que ça a été une des grandes faiblesses du Barça pendant des années. Aujourd'hui, non seulement le Barça ne prend plus de buts sur corner, sur coup franc, mais aussi leur marque. Donc aussi un grand chapeau à Luis Enrique pour son boulot défensif.
Ouais, et ce qui est remarquable aussi, c'est que dans la charnière, il y a Mascherano qui n'est pas son poste préférentiel, disons.
On a aussi Jérémy Mathieu ça va être dur pour lui de revenir dans la course, mais bon, il n'a pas été ridicule, loin de là. Mais c'est vrai que Mascherano est un milieu de formation, on le sait. Au mondial, il a été immense au rôle de numéro 6, mais il est tellement intelligent tactiquement, il est tellement rapide, il est tellement vicieux aussi sur un terrain, qu'il s'en sort parfaitement aussi à ce poste-là.
Le Barça, François, n'a pas eu la possession de balle, et ça, c'est exceptionnel. Selon les estimations d'un chiffrage à l'autre, on a 53, 54, voire 55% de possession de balles pour le Bayern Munich. En plus, au Camp Nou, ça n'arrive jamais, ou presque.
Ça arrive jamais, non, jamais. Je pense qu'aujourd'hui, ça passera au niveau des sociaux qui vont pas tenir trop rigueur de cet affront finalement fait au Barça. C'est arrivé l'an passé. Une victoire du Barça 4-0 sur le terrain du Rayo Vallecano, et pour la première fois depuis, je crois, 6-7 ans, le Barça n'avait pas eu la possession de balle, et malgré cette victoire-là, 4-0, la presse avait critiqué, mais d'une manière terrible, le pauvre Tata Martino, qui était à l'époque.
C'est improbable, quand même.
On a du mal à
y croire. Le Rayo Vallecano, ouais.
C'est une des équipes. Alors, l'an passé, il y avait Bayern premier, Barça deuxième, en Europe 1, et troisième, Rayo Vallecano. C'est une équipe qui tient le ballon tout le temps, le Rayo Vallecano. Donc évidemment, ils sont bien moins forts que ces deux monstres européens, mais c'est une équipe spécialiste de ça. Et c'est vrai que pour la première fois, le public était scotché, il n'avait pas compris que ça arrive. Et hier c'est arrivé, il y a des circonstances atténuantes, c'est Guardiola en face, c'est un spécialiste de ça, il est. Et surtout, il y a cette victoire-là, et bon, je pense que les supporters qui ne sont pas contents normalement quand ça arrive, aujourd'hui, ils vont laisser couler un petit peu.
Salim Bongali.
François a évoqué le terme Pep Guardiola, justement, donc le coach du Bayern, qui a notamment permis et demandé à ses joueurs d'être très hauts sur cette pelouse. On a vu régulièrement une chose que l'on ne voit pas normalement au FC Barcelone, des dégagements très loin, très très longs surtout, de Ter Stegen, mais également des défenseurs centraux, qui cherchaient assez régulièrement, surtout en première période, à trouver Luis Suarez directement. Sauf que Luis Suarez, de la tête, quand vous avez un Boateng, notamment, vous ne gagnez pas forcément ce duel. Donc régulièrement, sur ces deuxièmes ballons, les ballons étaient perdus par le FC Barcelone et récupérés par le Bayern. C'est aussi pour ça que le club allemand a eu une meilleure possession de balle.
Mais c'est une force aussi, ça. Parce que depuis le début de saison, Luis Enrique a remarqué que Luis Suarez, même s'il n'est pas très grand, il pouvait de temps en temps avoir un ballon de la tête. Et quand le ballon revenait dans le milieu de terrain, la plupart du temps, c'était le Barça qui l'avait. Et en une passe de Rakitic ou Iniesta, le ballon pouvait aller très rapidement à Neymar, Messi ou Suarez. Et là, peut provoquer un certain danger. Et c'est une des nouvelles armes du Barça, et ça a été plutôt bien accueilli par le public, qui, c'est vrai, n'était pas du tout habitué à voir ça.
Mais ces longues balles vers l'avant, elles venaient aussi du fait que le Ter Stegen ne pouvait pas dégager sur les côtés, enfin relancer de derrière.
À partir du moment où il y avait un pressing haut du Bayern, forcément il fallait pouvoir passer au-dessus ce pressing, parce que repartir sur les côtés comme le fait traditionnellement le Bayern et systématiquement quasiment, là il y avait forcément un risque, puisqu'on avait une formation allemande qui était extrêmement haute sur le terrain. Donc en cas de perte de balle, s'il y a des adversaires en nombre à cet endroit-là, enfin, ça, c'est vraiment risqué. Donc c'est d'une certaine façon, c'était une façon d'éviter ce risque-là, et je pense qu'il y a eu des consignes données là-dessus. Hein.
Ah oui, de toute façon, il faisait de l'individuel sur les dégagements de Ter Stegen. On voyait bien les deux attaquants, Müller, Lewandowski, partaient sur les deux centraux qui eux écartent. Après, vous aviez Schweinsteiger qui venait premier pour empêcher la Ter Stegen de passer par l'axe, mais ça n'a pas empêché quand même le Barcelone de se dégager par l'arrière aussi, ce qui a rendu des phases de jeu très très compliquées. Il y a eu des vrais duels, des vrais combats, mais c'est vrai, comme dit François, c'est aussi une arme supplémentaire aujourd'hui, et c'est pour pour ça d'ailleurs je pense que Guardiola était contraint de changer son système de jeu, c'est qu'il pensait couper l'approvisionnement en densifiant le milieu de terrain, mais il ne l'a pas coupé, parce qu'à partir du moment où vous passez par-dessus, bah, vous touchez Neymar, vous touchez Suarez, et même Neymar qui n'était peut-être pas en grande forme, notamment en première période, et vous touchez Messi, et là, sur du 1 contre 1, vous êtes mort.
Alors, on va écouter, on va s'attarder quelques minutes sur la façon dont Guardiola a abordé ce match avec le Bayern de Munich. Mais d'abord, on va l'écouter, l'entraîneur du Bayern, l'ancien entraîneur du Barça.
Évidemment, nous savions à qui nous avions affaire, une équipe qui venait d'obtenir de très bons résultats. Je pense que la meilleure manière de l'emporter était d'attaquer, de défendre tout en ayant la possession de balle. Cela nous a réussi dans le passé, cela m'a réussi personnellement, et je ne conçois pas le football d'une autre manière. Venir ici et s'enfermer derrière est très compliqué. On a essayé de contrôler à travers nos passes, même si on a eu peu de présence offensive, c'est vrai. Je suis très, très fier de cette équipe et de ses joueurs. Cela fait 3 mois que nous avons des problèmes et pourtant nous sommes arrivés jusque-là. Nous avons gagné la Bundesliga, nous sommes en demi-finale de la Ligue des Champions. Tous ces joueurs jouent au plus haut niveau depuis des années. Ils ont gagné la Champions League il y a 2 ans. Je n'ai aucun reproche à leur faire.
Ils ont fait tout ce qu'il fallait, tout ce qui était en leur pouvoir, les Bavarois. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'ils auraient pu faire plus?
Ah non, non, pour moi, ils ont fait le maximum. Simplement, après, c'est la réussite, la qualité individuelle des joueurs. Lewandowski, il a une occasion, il ne la met pas, là, il fallait la mettre. Puis vous manquez des joueurs cadres, hein, et ça, c'est compliqué. Simplement, eux, ce qu'ils ont fait en termes d'intensité sur le match, bon, pour moi, il n'y a absolument rien à dire.
Oui, l'intensité, elle y était dès la première seconde. C'est ça aussi qui a fait la grande force de ce match, c'est qu'il a été intense. Tout de suite, on n'a pas eu le moindre temps d'attente. Dès les premières minutes, l'engagement était total. Il y avait des occasions de part et d'autre. Il y a cette frappe de Suarez et puis donc la parade de Neuer. Elle a duré longtemps. Est-ce que quand même, justement, cette manière de jouer des Allemands là dans le dernier quart d'heure, ça compte pas un peu physiquement là dans la manière dont ils lâchent définitivement dans le dernier quart d'heure, parce que c'est quand même vachement exigeant comme manière de jouer.
Ah, c'est certain. Bon, on sentait que ça commençait déjà à baisser. On sentait que les Allemands avaient un peu plus de mal.
C'était un pari physique, si j'ose dire, parce que c'était un match extrêmement tactique. Hein, et Guardiola expliquait bien le choix qu'il avait fait de priver Barcelone de ballon. C'était quand même c'était voulu. Il y a eu son intelligence tactique aussi, son intelligence de s'adapter à une situation et de changer son système en cours de match. Donc là aussi, c'est remarquable quand même, parce que il faut les joueurs pour, mais il faut avoir cette capacité de réaction. Sauf que effectivement, à ce rythme-là, avec cette intensité-là, les organismes s'épuisent. Au bout d'un moment, c'était un pari, parce que finalement, à 10 minutes près, ça pouvait passer.
Ça a failli marcher jusqu'au bout, Salim.
D'où la responsabilité, j'utilise ce terme, de Lewandowski, l'attaquant polonais. Il n'a pas 50 occasions dans le match. Il n'en a qu'une seule d'opportunité en première période. Vous êtes un grand joueur, et c'est un grand joueur, c'est un grand attaquant. Il se doit de toucher cette balle qui est servie sur un plateau par Müller. Il se doit de la mettre dans les filets, il ne réussit pas à le faire. C'est la seule opportunité dans cette tactique qui a été évoquée il y a quelques instants par Guardiola. Le Bayern, c'était sûr, n'en aurait pas eu beaucoup des occasions. Malheureusement, le Bayern n'a pas profité de cette opportunité et on a vu la sanction finalement.
C'est le masque qui l'a handicapé ou quoi?
C'est bizarre en tout cas de rater ça, surtout qu'il met le bon pied. Il met le pied gauche.
Et il n'est pas gêné par le marquage.
Non, plus.
Non, c'est pas ça qui l'ennuie là sur cette action là. Mais c'est vrai qu'on a vu ce qui est drôle quand même, moi je trouve, de la part de Guardiola, c'est qu'il a expliqué en gros aux autres, moi je connais très bien Barcelone, je sais à peu près comment faut les contrer, alors soit sur des individuels, attention c'est compliqué, hein, sur des individuels, et quand il change son système en 4-4-2, c'est un 4-4-2 en losange, ça veut dire que ses milieux sont plutôt à l'intérieur, et il a 2 attaquants devant, donc c'est, alors que la logique, tout le monde pensait qu'il fallait quand même bloquer tous les couloirs, avoir souvent 2 lignes sur les couloirs, alors c'est vrai que Müller faisait l'effort côté droit, Lewandowski un peu moins côté gauche, mais ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres options, d'autres possibilités de contrer ce Barça-là.
François, qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous entendez sur la façon de s'y prendre face au Barça?
Bah, il n'y a pas 36 solutions, c'est très compliqué. Si on avait un qui connaissait parfaitement le Barça, c'était bien Guardiola, donc il a vraiment essayé de tout faire. Laisser sur les côtés, c'était peut-être pas idiot, parce que s'il y a des centres, Luis Suarez, effectivement, face à Boateng ou Benatia, c'est pas le plus adapté pour leur prendre de la tête. Mais le fait de muscler l'intérieur du jeu, oui, c'était pas idiot. Effectivement, après, ils sont passés par-dessus avec des longs ballons. pour l'éviter. Mais je trouve, moi, et je reviens sur cet homme-là, je trouve que Luis Enrique a parfaitement géré la situation. Il s'affrontait au maître, hein, finalement, à son ami, à un ancien partenaire de vestiaire, un joueur, un homme qu'il connaissait par cœur. Et lui aussi avait très, très bien étudié son plan. Et ces joueurs ont parfaitement aussi répondu. Donc... bravo aussi, surtout à Luis Enrique. On parle beaucoup de Guardiola, mais Luis Enrique aussi doit être félicité, en tout cas pour hier.
Et vous l'avez trouvé marqué, Guardiola, particulièrement marqué?
Ah bah quand il arrivait, oui, bah c'était pas la joie, non. Forcément, il était
3-0,
il était 3-0 chez lui. Forcément, j'ai trouvé aussi une toute petite voix. D'habitude, il porte quand même assez haut, assez beau. Et là, on le sentait tout rabougri sur sa chaise, le pauvre. Il était vraiment marqué. Maintenant, pour en avoir parlé après avec un ou deux joueurs, visiblement après dans le vestiaire, il aura dit que l'exploit finalement était possible, qu'il allait tout faire pour essayer de les remettre dans le bain. On sait déjà que le Bayern est champion d'Allemagne, donc ils ont plus à s'occuper de ça et tout va être fait vraiment pour tenter un exploit qui rentrerait là cette fois dans le panthéon des exploits sportifs.
Ouais, alors 3-0 donc pour le Barça à l'aller, reste ce match mardi prochain, match retour. Est-ce que c'est joué? Eh bien non, dit par exemple Mehdi Benatia, le défenseur central marocain du Bayern Munich.
Ben, c'est sûr que ça va pas être facile, mais si on n'y croit pas, autant rester à la maison. Hein. C'est sûr que ça va pas être facile, mais on est capable. On est capable de on joue encore mieux qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui tout n'a pas été mauvais, il y a eu des choses positives. Mais voilà, si on arrive à marquer rapidement, on peut essayer d'emballer le match et gagner 4-0. Bien sûr que moi j'y crois, ça reste un match de football. On a des joueurs de qualité, on va être capable, mais c'est sûr qu'il va falloir le match parfait parce que c'est une grande équipe en face. Et voilà, aujourd'hui ils en ont mis 3, eux, nous on peut essayer d'en mettre 4, pourquoi pas.
Ah, pourquoi pas? Mais il a raison. Il est d'un naturel désarmant.
Oui, mais il a tout à fait raison. Parce que si lui n'y croit pas, parce que comme nous, on n'y croit pas pour lui, lui en tant que joueur, il a intérêt à y croire.
Enfin, c'est normal qu'il tienne ce discours.
Voilà,
il est pro, il y a un match à jouer, il peut tout se produire. Maintenant, je pense que chez les bookmakers, le 6-1, il doit valoir cher.
Le problème, c'est que ce Bayern, pardon François, juste ce Bayern a été bon, donc encore une fois, on le dit, hein, pendant 70, 75 minutes, même si à la fin, effectivement, physiquement, l'équipe était moins présente. Donc, en étant bon, vous perdez 3-0. À un moment donné, on se dit, mais il faut faire quoi pour réussir à gagner 4-0? On voit pas comment aujourd'hui ce Bayern peut réussir à en mettre 4 sans encaisser un but, non?
Est-ce que Franck Ribéry sera là ou pas? Est-ce qu'il a une chance d'être là?
Non. Ni Robben, ni Ribéry, ni Alaba.
Non, c'est terminé.
Ouais, d'accord.
Donc, non, et puis il faudrait, pour mettre 4 buts, il faut déjà se créer 4 occasions. Et sur 90 minutes, ça s'en crée en gros une.
Sans cadrer une frappe, hein. Une première depuis 2009. Hein. C'était Bordeaux à l'époque qui n'avait pas subi la moindre opportunité face à cette équipe du Bayern. Enfin, on ne voit pas comment le Bayern peut en mettre 4, non.
Et surtout ne pas en encaisser.
De manière rationnelle.
Cela dit, le Bayern a déjà retourné des situations il n'y a pas si longtemps.
Porto.
Alors Porto, Shakhtar Donetsk
et au premier tour, il y avait l'AS Rome qui avait pris 7 buts aussi.
Oh là, l'AS Rome. Oh là là, attention. Ça fait trembler le Barça, ça.
Alors les stats sur plus de 400 matchs depuis 45 ans en Coupe d'Europe, c'est 93% de chances de qualification pour le FC Barcelone, enfin pour l'équipe qui a gagné 3-0 au match aller à domicile.
Et si on se limite à la Ligue des Champions, c'est 100%.
Ça suffit, voilà, ça y est.
C'est une statistique qu'on donne sur tous les matchs de Coupe d'Europe, mais si on se limite aux matchs de Ligue des Champions, c'est 100% des équipes qui ont gagné 3-0 à l'aller qui se qualifient.
Bon, alors, et puis là, c'est le Barça. Ouais. C'est une équipe pleine de champions du monde, pleine d'expérience, qui savent parfaitement gérer ce genre de rencontre. Et comme disait Christophe, ne pas mettre un but pour le Barça, je crois que ça arrivait 3 fois cette saison et 3 fois contre des petites équipes de Liga, vraiment, où ils n'étaient pas motivés. Et ça leur a vraiment servi de leçon. Et généralement, ils marquent la fameuse MSN. Messi, Suarez, Neymar marque
une maladie, ça. Hein.
Bah, il reste sur un doublé chacun.
C'est une maladie pour les autres équipes.
Voilà, c'est la maladie des autres équipes.
Le seul petit espoir éventuel pour le Bayern, c'est que le FC Barcelone, qui se doit de mettre son équipe type ou quasi type en championnat, ait des joueurs qui se blessent potentiellement ce week-end, puisque le Bayern va largement faire tourner. C'est le seul espoir, entre guillemets, c'est espérer que les joueurs se blessent ce week-end pour ne pas avoir par le MSN ou d'autres joueurs.
Quand on est là, c'est
mais c'est évident, c'est ça. C'est pour ça que, de manière rationnelle, on voit pas comment le Bayern peut même pas mettre 4 buts, mettre un seul but, quoi, face à cette équipe du Barça.
Le Barça qui recevra en Liga pour la 36e journée la Real Sociedad, pendant que le Real Madrid recevra Valence. Et puis encore là, le troisième volet aussi du défi, la finale de la Coupe du Roi contre l'Athletic Bilbao le 30 mai. Question suivante, puisque celle-ci elle est réglée, le Barça est en finale, le Barça c'est le futur champion d'Europe. Il nous reste une minute et demie pour dire oui ou non.
Allez, moi,
Hervé.
Oui, allez, oui, oui.
Ah, c'est clair.
Non, je pense qu'ils ont le potentiel cette année pour gagner. Et puis surtout, il y a quelque chose, il se passe quelque chose avec cette équipe. À la fois, j'aimerais bien même que ce soit eux, parce que je trouve qu'ils ont tellement montré de choses cette année en termes de qualité de jeu et puis de génie individuel qu'à un moment, il faut être aussi récompensé. Donc oui.
En plus, si on va admettre que le grand rival c'est la Real, comme en Espagne. Sur l'état de forme des deux équipes actuelles, on a quand même le sentiment que le Barça carbure mieux en ce moment que le Real. Donc là aussi, on peut penser que le Barça, sur la valeur et sur la forme du moment, risque d'aller au bout. Ouais.
Rien à ajouter. Effectivement, comme Hervé et Jean-Philippe l'ont dit, par rapport à l'état de forme, par rapport à l'impression laissée, par rapport aux absences aussi à Madrid, Luka Modric, nous pouvons pas, c'est très précieux comme absence. On voit mal aujourd'hui qui peut contrecarrer le Barça avec des champions.
Attention à la Juve, imaginons la Juve en finale.
Attention Real. C'est la seule équipe.
La prudence est à Barcelone.
Non, mais c'est pas ça. Alors, déjà, ce serait historique parce que ce serait la première fois qu'on voit le Classico en finale.
Oui.
Et c'est la seule équipe pour moi cette année au Camp Nou qui a vraiment fait presque jeu égal avec le Bayern, mais le Real a été très fort aussi.
Merci François David, on vous laisse avec les petits osios qu'on entendait derrière vous là-bas à Barcelone. À très bientôt. Merci à Hervé Penaud, Jean-Philippe Bouchard, Salim Bongali, Eric Chorin. Merci aussi à David Finzel et Abdel Marzouk. À demain.